On faisait de la musique dans notre studio en 99 et il y a eu une explosion avec le bug et depuis on est devenus des robots.
Vous aviez besoin de ça ?
Les accidents, on les prédit jamais.
C'est quoi la French Touch ?
Ils étaient un petit peu comme des pionniers qui découvrent l'Eldorado.
L'histoire secrète de la French Touch.
Ils inventaient quelque chose. Voilà, il y avait une idée de mouvement.
Bangalter Thomas, 32 ans, moitié de Daft Punk.
Dorian Christophe Guimmanuel, 33 ans, moitié de Daft Punk.
30 témoins, 30 ans d'archives et d'anecdotes inédites.
C'est pas mal votre truc, vous êtes en même temps hyper pointu, hyper expérimentaux, mais hyper populaire, les gens adhèrent.
Daft Punk, Cassius, Justice, Nile Rodgers. Les coulisses de la French Touch, par ceux qui l'ont faite.
À l'époque, quand t'entendais de la techno dans une bagnole à Paris, t'allais voir qui c'était, parce que tu le connaissais forcément. Les gens disaient, c'est la musique du diable, c'est pas de la musique, parce qu'il y a le pied qui fait boum, boum, boum.
Un podcast de Mathieu Culeron et Stéphane Jourdain.
La French Touch, c'est ça, finalement, l'histoire à raconter. Hein. À la recherche du succès, puis à la fin, c'est Daft Punk qui gagne, quoi.
Épisode 8, Extase et gueule de bois.
Les Anglais étaient complètement dingues, en fait. Enfin, dès que tu disais French Touch, tu te faisais signer en Angleterre.
Romain Tranchard, du groupe Mojo.
On m'avait raconté, quelqu'un s'est fait signer sur un label anglais sans avoir fait écouter sa musique, avec une avance de 1 million de francs à l'époque, ou je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une hystérie totale.
Live from Radio 1 Studios, the official UK Top 40.
On écoutait le top à la BBC sur Radio 1, top 10. Ah bah non, c'est pas nous. Top 9, allez, on croise les doigts. Ah non, c'est pas nous. Top 3. Non. Top 2, non. Bon, top 1. Mojo Lady. C'était complètement surréaliste. Je crois qu'on a été le premier groupe français à être numéro 1 en Angleterre. Donc forcément que ça a été une déflagration et pas simple non plus à vivre. On a dû vendre 2 millions de singles. On a été numéro 1 des passages radio en Europe, numéro 1 des ventes de CD singles dans le monde. Compilé, on a été intégré dans plein de compilations. Enfin, à l'époque, il y avait eu un sondage qui disait que chaque personne sur Terre avait entendu en 2000, 9 fois, au moins 9 fois dans sa vie, Lady. Je connaissais un petit peu Yann de toute la période des groupes de rock où on jammait, on se croisait dans des buffs, etc. Et je me disais que c'était vraiment un super musicien. Et puis, assez vite, il se mettait à chanter. Il était fan des Beatles à l'époque. Et il prenait souvent le micro pour faire des reprises des Beatles. Et je me suis dit, waouh, il a une voix vraiment, vraiment extraordinaire. Lady. Assez vite, je lui ai fait écouter ce qui était déjà la structuration, l'ossature de Lady, en fait. Donc, un travail qui m'avait pris peut-être un an et demi, quasiment de poterie à modeler, à découper le sample. Il y a pas mal de gens qui pensent que t'écoutes Soup for One et Lady et tu dis « Ok, c'est la même chose ». En fait, non. Il y a un gros, gros, gros travail. Et j'en avais parlé avec Thomas aussi sur One More Time. Pareil, il y a un travail immense, en fait. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet en disant « Mais regardez, c'est facile, je vous fais le A, B. » En fait, c'est plus de travail que ça, quoi. J'ai fait écouter, d'ailleurs, ce morceau-là, cet instru, en fait, à l'époque, à Guiman et Erico, Eric Chedville, donc, du label Cri d'amour, qui était le label de Guiman et Eric. Ils étaient là, ah, c'est bien, mais on sait pas, il manque un truc, non, mais c'est bien. Et puis, heureusement qu'ils l'ont pas signé, parce que ensuite, avec Yann, je me suis réveillé un matin et j'ai appelé Yann, j'ai dit, Yann, ramène-toi, j'ai un truc à te faire écouter. Et j'avais entendu la mélodie, en fait, de la chanson dans mon rêve. Lady, hear me tonight. Et là, il y a Yann qui se pointe. J'avais le début des paroles aussi, mais on a dû passer quelques heures à les terminer ensemble. Je crois qu'on savait pas si on partait sur Baby ou Lady, et effectivement, on est parti sur Lady. On a terminé les paroles, on a enregistré. Yann a fait des harmonies de voix assez extraordinaires. For the first time, and I know that it's true, I can tell by the look in your eyes. On est arrivé à un morceau qui était très fort. C'est marrant parce que je me disais à la fois que c'était imparfait et en même temps, cette subtilité et cette douceur-là, et ben, cette mélancolie, je la trouvais très, très belle. Donc, je me disais, OK, ça peut le faire.
Mojo, Bob Sinclair, ces noms ne vous disent peut-être rien et pourtant, leur tube cartonne dans le monde entier. Une French Touch qui séduit même les plus grandes stars de la musique comme Madonna.
Je dis, c'est dingue, ça monte encore de plus en plus, ça monte encore et tout.
Étienne de Crécy.
Je vois pas ça d'un mauvais œil, en fait, c'est comment dire. Je dis pas que j'aime bien tous ces morceaux, mais d'un côté, je me dis, ouais, on est tous ensemble, on est en train de gagner. Tu me dis, c'est super, quoi, c'est vraiment, c'est notre musique qui est en train de devenir la musique de l'époque. Donc, il y a un côté. Il y avait un côté vachement positif là-dedans. À l'époque, tout le monde disait, ouais, c'est de la merde et tout. Moi, je disais, mais bah, c'est de la merde, c'est pas de la merde, c'est notre musique. Enfin, tu vois, c'est fait avec du cœur. Et donc, voilà, je ne voyais pas ça du tout d'un côté négatif. Par contre, il y a toute une ambiance à ce moment-là, chez tous les Français d'ailleurs, de genre, il faut faire un single. Tout d'un coup, tu as des exigences de radio edit, de passage radio. Les discussions, c'était énergie, ils aiment bien ça, gna gna gna. Donc, c'est vrai que c'est un truc qui a beaucoup pollué, je pense, cette période.
Je pense qu'en France, c'est devenu quelque chose d'important et de vraiment très intéressant. Je pense que c'est à l'explosion de la French Touch.
Laurent Garnier, 2005.
C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses avant, mais je pense que ça a fait que la musique a passé un réel cap dans la tête des gens. C'était plus qu'une chasse aux sorcières et un truc horrible avec que des extasiés débiles mentaux. On est arrivé à faire la techno-parade. Il y a eu des portes qui se sont ouvertes.
Et la première victoire de l'histoire pour l'album Dance va être remise à
30 de Laurent Garnier.
Alors on a mis beaucoup de temps à arriver à ça, mais je pense que ça a été le réel moment où toutes les choses ont explosé, se sont mises un peu tu vois, au plein jour. Ça a créé une espèce de dynamisme qu'on n'a jamais eu auparavant en France.
Des années 90.
David Blot, co-organisateur des soirées Respect.
T'as une hype française assez énorme. T'as d'autres facteurs aussi. Hein. T'as la Coupe du Monde qu'on gagne. Je dirais qu'on a Jospin au gouvernement, ce qui est comme moins déprimant que des choses qu'on a eues après et avant.
Il y avait une très forte énergie.
Romain Tranchard, du groupe Mojo.
Une aura assez incroyable venant de France. L'approche peut-être de l'an 2000, je pense que c'était un passage symbolique, donc ça nous excitait beaucoup inconsciemment, parce que effectivement on entrait dans une autre ère.
C'est fait, le Pax définitivement voté à l'Assemblée nationale cet après-midi.
Les jeunes, s'ils veulent s'imaginer l'époque, c'est exactement l'inverse de ce qu'on est en train de vivre.
DJ Falcon.
Tu vois, on gagne la Coupe du Monde alors qu'on a toujours. On n'a jamais rien gagné. Hein. Et là, tout d'un coup, on s'est mis à briller. Les gens à l'international, il y avait cette fierté d'être français. Cette French Touch qui, quand même, qui reste joyeuse, efficace, ce côté festif. C'est qu'il y avait le tous ensemble. Il y avait. C'était pas le village des Schtroumpfs non plus. On n'était pas dans un truc. Mais c'était clairement une période privilégiée.
Il faisait bon se faire passer pour un Français parce que c'était cool.
Dimitri from Paris.
Bon, ça a duré quelques années. Hein. Effectivement, le bon exemple, c'est Jacques Lecomte et les rythmes digitales.
Ouais.
Jacques Lucon, c'est Jacques Toncu.
Antoine Kenobi, consultant pour la marque Kitsune.
Il dit qu'il est français parce que ça fait mieux chez Heidi ou chez The Face de dire que t'es français. Ça devenait super cool d'être français. Ah, c'est sûr, c'était super cool d'être français. T'arrivais à Chicago, c'était super cool d'être français. Ça, c'est sûr, c'est clair et net.
Ouais, c'est assez drôle. Donc, Jacques Lecomte, c'est Stuart Price, qu'on voit maintenant sur plein de prods, Madonna ou des trucs. Il est sur l'album aussi de FKA Twigs ou de genre comme ça. Tu vois son crédit. Et effectivement, il se fait passer pour français. T'as ce truc. Mais c'était un peu. Quand t'as eu la vague Manchester 10 ans avant, t'avais des groupes de Londres qui prenaient l'accent de Manchester pour essayer de se faire signer. Bon, là, je vais pas dire qu'ils vont se faire passer pour français. Enfin, si, en l'occurrence, Jacques Lecomte, quoi.
Dans mon album, j'avais envie de me faire passer pour un anglo-saxon qui se faisait passer pour un français.
Dimitri from Paris.
Parce que j'adorais les imitations des Français dans la culture populaire anglo-saxonne. Alors, les Monty Python faisaient des accents français qui étaient très ridicules, nous singeaient d'une manière que je trouvais très drôle. Donc voilà, ces clichés-là, j'avais envie de les mettre en avant. Et puis cette fameuse appropriation du français par les anglo-saxons, justement, quand j'appelais au téléphone, on me disait « Oh, sacre bleu, Dimitri, oui, baguette yeah, !» yeah, yeah, yeah. Voilà, j'avais envie de mettre tous les clichés en avant dans mon premier album Sacre bleu. Et ce qui est quand même, moi j'ai trouvé ça assez incroyable, c'est que quand mon album est sorti aux États-Unis, à peu près presque un an plus tard qu'en Angleterre, les Américains ont pris ça au premier degré.
Vous dansez, mademoiselle ?
Sacré français !
On voit que cette musique s'est créée par des Américains.
Bob Sinclair.
Et que on l'a transformée, on l'a digérée et on la rejette avec nous toutes nos influences de l'image, des influences de musique, bien sûr, européenne. Les Américains sont un peu à la traîne, je dirais. Et donc, en 98, 99, 2000, il faut être en Europe.
Les Américains se sont fait niquer comme des bleus. Hein.
DJ Grégory, 2005.
Je veux dire, ils ont inventé cette musique, les Européens l'ont reprise et l'ont digérée à leur sauce, et manque de bol pour eux, c'est une musique qui a explosé en Europe. Elle n'a jamais explosé aux États-Unis. Explosé, je veux dire, à ce niveau-là, jamais.
L'histoire secrète de la French Touch. Épisode 8, Extase et gueule de bois.
Pour moi, ce qui a clos définitivement cette période qu'on pourrait appeler d'underground, c'est Lady Mojo. Lady, hear me tonight. Qui est un tube intergalactique et qui a...
Éric Chedeville, cofondateur du label Cri d'amour.
Qui a rendu cette musique tellement populaire que même les enfants dansaient dessus. Enfin, c'était fini, quoi. Le vieux drogué avec son acide au fond d'un bois. Là, après, voilà, il y avait de la techno pour les chants de Noël, pour les enfants, dans les manèges. Enfin, voilà, quoi. La techno à toutes les sauces, quoi. C'était fou.
Très vite, en effet, il y a eu cette déferlante de filtres.
Alex Goffer.
Il y a eu un peu une overdose au début des années 2000, un peu après. Il y en a eu beaucoup et ça a été un peu fatigant et ça s'est mis à tourner en rond. Mais c'est le paradoxe, en fait, c'est parce qu'on faisait de la musique électronique. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de peut-être d'autres producteurs. Parce que je faisais de la musique électronique, j'étais considéré comme un DJ. Et du coup, je me suis retrouvé à jouer dans les clubs le samedi soir ou le vendredi soir, ou les deux. Donc, je vais faire des trucs qui envoient, qui tabassent. Et pourquoi pas, moi, je pourrais pas faire mon tube de house filtré. Je vais le faire aussi.
Les 300 labels de disco filtré qui se sont montés, qui se sont tous cassés la gueule.
Pedro Winter, ancien manager des Daft Punk.
Les 300 faux Daft Punk français qui se sont montés, qui se sont cassés la gueule. Les 300 contrats des maisons de disques, des majors qui ont signé des artistes pour des budgets monstrueux et qui ont vendu 4 disques. C'est clair que les mecs, ils pètent un peu les plombs.
On n'est plus dans une passion, quoi. On est la boîte de nuit, les jacques de champagne.
DJ Grégory,
les culottes à ficelle et on balance la techno. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Plus pompe à fric, tu veux le break, tu veux ça, on va te le donner. Plus, j'ai fait un titre, les gars, je suis une star. Après, quand tu essaies de traire la mule parce que machin et que tout le monde commence à être...
Tu te rends compte un peu de toutes les bananes qui sont passées après Stardust et qui ont voulu faire les Stardust situés.
La révélation qu'il y a eu un moment où ça a merdé, c'est... je crois que c'est au moment de la ressortie de Motorbass où je vais chez Philippe, dont je vais faire une séance photo pour un truc comme ça et tout.
Étienne de Crécy.
Et puis...
2005.
On regarde tous ces vieux disques, les vieux disques de techno, et tu vois, on les a ressortis, on a écouté les vieux disques. Et là, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un truc qui avait été trahi dans la musique, si tu veux. Même ces disques-là, qui dataient donc de 91, 92, 93... Il restait super plus courageux, super plus futuriste et super plus intéressant, en fait, que toute la house qui sortait, qui cartonnait peut-être et tout. Mais tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment eu une révélation. Mais attends, on a pété les plombs, quoi. On a couru après un truc qui ne correspondait pas. C'était pas le truc qui nous avait fait vibrer au début, quoi. Moi, je me disais vraiment, mais qu'est-ce que je vais faire comme musique maintenant? Parce que le style musical que j'ai fait au début... Il s'est fatigué vachement vite, je crois. Alors qu'au départ, c'est les Français qui ont copié les Américains. Quand les Américains ont commencé à copier le son français, il y a un truc qui s'est arrêté, en fait.
La gueule de bois de la French Touch, c'est qu'on va dire à part les Daft ou Air, mais les gagnants, ça va être un peu David Guetta, qui va se mettre sur le truc à la fin des années 90, même s'il était là avant.
David Blow.
Ou quelqu'un qui est notre pote, mais dont on ne va pas suivre forcément tous les délires, et qui est Bob Sinclair. C'est un peu eux qui vont gagner le truc. Et d'un coup, ce qui explique le retour du rock ou l'arrivée du pulp ou de l'électroclash, c'est que d'un coup, la musique, la house, devient une musique pour l'école de commerce, quoi. Ce qui n'était pas du tout à la base ce qu'elle était, quoi. Donc, ça va assez vite aussi, le contre-coup.
David Guetta va exploser en 2009, vraiment.
Bob Sinclair.
Avec, je crois, son album où il y a toutes ces stars, là, vraiment. Là, lui, il fait vraiment le crossover avec les États-Unis, le rap. Lui, il rentre vraiment dans une pop, pure pop. C'est de l'image, c'est du buzz. C'est un groupe d'individus qui explosent dans le monde et qui font marcher un style de musique. Il y a Martin qui a fait quelques titres, David qui a fait son premier album, je crois. Donc, tu vois, il y a quand même... On devient plus... Disons que la starification des DJ commence à opérer.
C'est quoi la French Touch? Ça ne voulait pas dire grand-chose.
Laurent Garnier.
Ça englobait plutôt un pays qu'autre chose. On n'a jamais dit il y a la English Touch, il y a la American Touch ou la Japanese Touch. On a toujours ramifié la musique en disant il y a de la drum and bass, mais c'est précis la drum and bass. Il y a de la techno, c'est précis. Il y a du hardcore, c'est précis le mot du hardcore. Après, il y a eu encore des sous-divisions. Il y a eu acidcore, enfin, il y a eu tous les petites divisions comme ça qui précisaient exactement ce qu'était un style de musique. Et un jour, il y a eu la French Touch. Mais ça a été un espèce de sac fourre-tout où on a mis tout et n'importe quoi. À partir du moment où ça avait un nom français, où ça ressemblait à du fromage français, hop, on va tout mettre là-dedans et c'est la French Touch.
Musicalement, ça n'a pas de sens, la French Touch, en fait, entre Air et les Daft.
Étienne de Crécy.
C'est pas une image musicale, c'est une image d'histoire géo, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est un endroit, à une époque, c'est le milieu et la fin des années 90.
On m'a souvent posé la question de c'est quoi la French Touch? Et la French Touch...
Pedro Winter.
À un moment, j'ai cru que c'était un son, un courant musical, un élan collectif de plein d'individus assez différents. C'est un tout, c'est protéiforme, c'est philosophique, et c'est finalement intemporel, puisqu'on est en 2025, il y a encore aujourd'hui des gens qui se revendiquent de ce mouvement-là, mais c'est ça qui est finalement fascinant avec ce courant musical, c'est que depuis 30 ans, on cherche une définition, et moi-même, je n'ai pas la réponse aujourd'hui.
Qu'est-ce que c'est la French Touch? C'est des gens de bon goût.
Antoine Kenobi.
C'est des gens qui n'ont pas forcément de culture d'ailleurs de dance music, qui sont des diggers, qui sont des esthètes, un peu bourgeois, qui ont une soif de culture, on est en pré-internet, mais on sent que tout est possible, que ça va être disponible, de pouvoir mélanger Conversations secrètes de Coppola avec Helmut Newton, Saint-Laurent, le Palace, enfin blablabla, tu prends ça dans un shaker. Nous, on a soif de ça parce qu'on nous raconte des histoires et nous, on veut que tout soit possible, on veut tout prendre. Et puis, on a un truc qui s'appelle un sampler, donc évidemment, je pense que c'est un peu formaté notre cerveau. On a envie de prendre des samples de tout ça et de tout coller. Les gens n'avaient pas forcément envie de faire des disques de French Touch. Je pense que, comme Philippe, ou là, ils n'avaient pas envie de faire de la French Touch. Ils n'ont jamais vraiment fait, d'ailleurs, pour nous, on va proprement parler des trucs de house filtrés, mais ça ne les intéressait pas de continuer là-dessus. Donc, en fait, ils sont passés à autre chose.
Il y a les têtes de pro, quoi. Justice, Daft Punk, il y a quelque chose comme ça, de beaucoup de satu, de...
Maud Jeffrey, de Scratch Master.
Un son qui ressemble plus à ce que je pourrais appeler French Touch, mais après, c'est vrai que derrière, il y a tellement de gens qui n'ont pas ce son très compressé, qui font complètement autre chose. C'est pratique pour dire le son français. Je sais pas trop quoi penser de ce mot.
Mais derrière ça, on a oublié plein de gens, parce que la French Touch, on pense toujours à eux, on parle souvent que d'eux.
Sébastien Chenu, de Scratch Massive.
Alors que justement, tu parlais de Laurent Garnier, ou The Hacker, ou Dima, anciennement Vitalik, Scanix, sont des gens qui ont mis leur nom aussi sur la carte du monde en termes de musique électronique. Et eux, on n'en parle vraiment pas beaucoup en termes de French Touch. Hein. C'est souvent Air, Phoenix, qui prennent la médaille.
Des fois, je me dis, c'est on a vécu ce que certaines personnes ont vécu avec le disco.
Fanny du Pulp.
Tu sais, le disco, c'est arrivé, le disco, au bout d'un moment, on ne pouvait plus, même Sheila faisait du disco, quoi, tu vois. Alors, ça, c'était une espèce d'overdose de disco. Et effectivement, à ce moment-là, c'est une espèce d'overdose hégémonique de musique filtrée, ultra compressée. Et je trouve ça, moi, un petit peu, à cette époque-là, je trouve ça un peu bourrin, un peu facile. Tu vois, le break, si tu rajoutes un pied qui tabasse hyper fort. Tu vois, effectivement, c'est plus facile de faire lever les bras, quoi. Et effectivement, c'est un peu sursaturé. Mais à cette époque-là, malgré tout, si tu veux, moi, je suis à Nova et il y a plein d'autres mouvements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te fait croire qu'il n'y avait que ça et on n'écoutait que ça.
C'était quand même un crew de mecs un peu bourges.
Rebecca Warrior.
Je ne me sentais pas concernée, donc je tiens quand même à le dire. On n'était pas tous concernés par cette scène. Que des mecs, que des blancs. Tout le monde regardait la French Touch. Donc j'en avais marre.
Parce qu'il faut le dire, quoi, c'est un putain de boys club, quoi. Tu vois, il n'y a pas une meuf. Il n'y en a pas un qui a été capable de faire sortir une meuf de ça. Et aujourd'hui, on continue à avoir ce boys club. Au bout d'un moment, tu fais les gars, quoi. Vous voulez pas sortir de votre histoire, là. Parce que c'est ça aussi, quand t'as un label ou quand t'as un crew, les têtes de gondole tirent des petits. Vous voulez pas essayer de faire sortir des meufs de là, faire émerger des meufs.
J'ai adoré cette époque-là. Évidemment, j'étais étudiant.
Vitalik.
C'était un mouvement qui prenait de l'ampleur. C'était un truc. C'était aussi une façon de un truc de social, tu vois, avec des potes, avec des rencontres, avec des. Donc c'était vraiment super. À la fin, la French Touch, j'en pouvais plus du tout, par contre. Les boucles de disco samplées, c'est devenu. Quand les recettes sont devenues évidentes, qu'elles commencent à passer à donf à la radio, à la télé et tout, là j'en pouvais plus et j'ai adoré l'électroclash qui était la version un peu sale.
La petite scène parisienne.
David Blow.
Ça devient le pulp, ça devient l'électroclash, c'est quelque chose d'un petit peu plus dur, d'un peu plus rétro années 80, alors que la house c'était plus rétro années 70. Voilà, il y a des petits changements.
C'est le début de ce qu'on a appelé l'électroclash, en fait. C'est beaucoup plus rock, c'est beaucoup plus décadent aussi comme esprit. À Opel, on commence à faire jouer des filles qui sont
Fanny.
Qui sont pas forcément hyper pro en fait. Et Opel, c'est un club de filles. gérée par des filles pour des filles. On commence à faire jouer des copines qui ont des disques, qui aiment ça, qui commencent à jouer et qui sont pas forcément hyper pro, mais qui vont faire leurs armes.
Ah oui, non, moi au départ, je me disais même pas que c'était quelque chose d'envisageable.
Maud Geffray.
Et il a fallu que je me lance derrière les platines du Pulp. Il a fallu que j'envoie beaucoup, hein, des gens mixés. Je passais pas mal de temps à la maison à m'entraîner chez moi avec des vinyles et tout, parce que j'aimais ça, mais de façon, c'était un hobby en parallèle de mes études, mais j'imaginais même pas que c'était possible. C'est juste qu'après, j'ai dû essayer au Pulp, j'étais pétrifiée, je me disais, ah là là, mais comment ça va se passer ce set? Et puis en fait, c'était génial, j'ai adoré, et puis petit à petit, le hobby s'est transformé un peu naturellement en quelque chose de plus professionnel. Mais il m'a fallu même du temps à moi pour intégrer que ce soit possible. On était peut-être la première génération où il y avait quelques filles, mais on n'était déjà pas beaucoup, en fait.
Maintenant, il y a énormément de DJ, de meufs qui font du hardcore.
Rebecca Warrior.
Donc ça aussi, c'est une scène qui s'est vachement ouverte. Il y a 10 ans, il n'y avait aucune meuf qui faisait du hardcore. C'est pour ça que j'ai monté le label, oui. Et ça met aussi en lumière le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'écouter d'autres choses que de la techno autoroute. Donc ça, c'est bien. Des ambiances plus live, plus rock, plus EDM. Ça, c'est super.
Ces dernières années, oui, dans la techno, le business a changé. C'est devenu un business, justement, et un énorme business.
The Hacker.
C'est normal. Enfin, je veux dire, ça s'est passé avec tous les autres genres musicaux, quoi. Mais je me disais, est-ce que j'ai ma place là-dedans? Est-ce que j'ai envie de jouer le jeu? La musique électronique, en ces 5-6 dernières années, ça a beaucoup changé, quoi. Je veux dire, à la rigueur, l'EDM, David Guetta et compagnie, moi, j'ai rien à leur dire à ces gens-là. Ils font leur truc, limite, ils assument. Ce qui me dérange un peu plus, c'est ceux qui se disent techno, mais qui font la même chose, en fait. Qui disent, ah non, mais moi, je joue de la techno, je suis underground, ouais, mais t'es quand même en jet privé et compagnie. Donc, c'est la même chose, en fait. Donc, tu vois, c'est ça que je trouvais un peu grotesque, même, à un moment donné. Et puis, alors, les réseaux sociaux n'ont rien arrangé, hein, on est bien d'accord. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the bag shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
Nous, on vient d'une génération de vieux cons où il n'y avait pas tout ça.
Miss Kittin.
Donc, c'est difficile pour nous de s'adapter, mais c'est aussi un challenge de vivre avec son temps.
Pour les vieux comme nous, oui, on a gagné une certaine bataille qu'on a menée dans les années 90, mais est-ce qu'il aurait peut-être mieux valu la perdre, finalement
Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il faut être plus fort que ça et il faut vivre avec son temps. Et c'est normal, tout ce qui se passe. Après, il faut juste se réjouir du succès des autres. Ce qui compte, c'est de durer, c'est le temps le dira. Je pense que chacun doit faire ses expériences. C'est important de rester positif par rapport à ce qui se passe, parce que y a de la place pour tout le monde.
À suivre, épisode 9. Les Daft Punk deviennent des robots.
Quand on joue à 35 degrés avec 90% d'humidité, c'est vraiment très dur. C'est l'équivalent de faire de la Formule 1, mais debout pendant une heure et demie.
Dead.
L'histoire secrète de la French Touch est un podcast original de France Inter. Suck my dick.